Le journal Babel Pongo Massimango.
La gestion de la SNCC de l'ONATRA sera désormais partagée entre l'État congolais et des partenaires étrangers. Le gouvernement l'a annoncé vendredi dernier. Dans ce journal, vous aurez la réaction de la délégation syndicale de l'ONATRA, celle du Sénat, mais aussi des explications de la ministre du portefeuille. La société civile du Nord Kivu se réjouit du report de la conférence sur la paix dans les Kivu, mais elle pose des préalables pour participer à ce forum, notamment augmenter son quota de représentation et éclaircir le statut de groupes armés invités. Au Sud Kivu, le gouverneur Célestin Tshibalonza a été réhabilité dans ses fonctions. La Cour suprême de justice de Kinshasa juge inconstitutionnelle la motion de censure de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Madame, Monsieur, bonjour. Dans le compte-rendu de sa réunion de vendredi dernier, le gouvernement a annoncé que les entreprises publiques ONATRA et SNTC seront placées sous la gestion mixte de l'État congolais et des partenaires étrangers. Pour l'ONATRA, c'est la compagnie espagnole Progoza et pour la SNCC, c'est l'opérateur ferroviaire belge Vecturis. Au siège de ces deux entreprises congolaises du secteur du transport, pas de réaction des dirigeants pour le moment. Tout le monde prend le temps de comprendre de quoi il est question avant de réagir. Mais ce n'est pas le cas du côté des travailleurs. Le président de la délégation syndicale de l'ONATRA, M. Tadila, se dit indigné du fait que les travailleurs premiers concernés par cette réforme n'ont pas été consultés. On l'écoute au téléphone de Olga Ndombassi.
La nouvelle à propos de la mise sous contrat de gestion de l'ONATRA, nous l'avons accueillie avec beaucoup de réserves et de pessimisme. Parce que, à notre connaissance, les travaux initiés par les copilotes qui devaient justement déboucher sur ce genre de mode de gestion, ces travaux n'ont pas encore fini. Ça, c'est la première inquiétude. Et la deuxième, c'est que nous sommes dans une phase de réforme des différents cadres juridiques régissant les entreprises publiques. Alors, nous ne pouvons pas comprendre, pour ces deux raisons, l'empressement du gouvernement à vouloir mettre l'ONATRA sous contrat de gestion au moment où le cadre juridique dans lequel devra évoluer ce contrat de gestion n'est pas encore clairement défini. Donc, ça nous pousse vraiment à la réserve et je dirais même au pessimisme.
Côté Parlement, le rapporteur du Sénat renvoie la balle au ministre des tutelles. Pour Modeste Moutinga, il serait précoce de juger la décision du gouvernement avant la promulgation de la loi sur la réforme des entreprises publiques, loi qui est encore sous examen au Sénat. Modeste Moutinga est au téléphone de Willy Akonda.
Je pense que si le gouvernement agit à ce stade, il agit dans le cadre de la loi de l'année 1978 qui porte gestion du portefeuille. Il y a quatre lois qui ont été déjà discutés en plénière et qui sont au niveau d'examen dans les commissions spécialisées du Sénat. Je ne veux pas interpréter les décisions du gouvernement telles Madame la ministre au portefeuille qui a la tutelle administrative financière des entreprises publiques et les entreprises techniques, donc le ministère des Transports et des Voies de Communication peuvent répondre à cette question.
Mais le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement.
Le contrôle parlementaire porte sur les lois et les règlements déjà adoptés et publiés par le président de la République ou le premier ministre. Nous ne pouvons pas contrôler en amont pour interpréter une loi qui n'est pas encore promulguée par le chef de l'État.
Davantage d'explications sur ce dossier viennent du ministère du portefeuille. Selon la ministre Jeannine Mabunda Iyoko, ni l'ONATRA ni la SNCC n'ont été vendues. Ces entreprises restent donc congolaises. Il s'agit tout simplement d'un contrat d'assistance technique pour une gestion moderne. Jeannine Mabunda Iyoko, au téléphone d'Agaspo Naminga.
Ce n'est pas une privatisation. Nous n'avons pas vendu l'ONATRA ou la SNCC. Le capital appartient toujours à l'État congolais. Mais nous faisons venir avec nous, nous faisons travailler avec nous des partenaires dans le cadre d'un contrat d'assistance technique de manière à ce qu'ils puissent, avec des directeurs financiers et des directeurs généraux adjoints congolais choisis sur concours, ils puissent prendre des mesures de gestion modernes. Nous avons un directeur général et un directeur financier qui sont expatriés, choisis sur concours. Au mois de juin, le COPIREP a lancé un appel d'offres pour chercher des partenaires spécialisés dans le secteur du transport ferroviaire pour la SNCC et portuaire pour l'ONATRA. Et deux prestataires de services ont été identifiés. Progoza pour l'ONATRA et Vecturis pour la SNCC. Un contrat de gestion, ce ne sont pas des licenciements massifs. Il y a moyen de rendre une entreprise publique performante sans nécessairement passer par des licenciements massifs. Et à ce moment, l'État est toujours propriétaire et c'est lui qui décide de la politique sociale. Je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir de ce point de vue.
Concernant le cadre légal dans lequel s'inscrit cette réforme, la ministre du Portefeuille évoque la loi de 1978 qui régit les entreprises publiques. Selon elle, cette loi reste valable en matière de contrat de partenariat public-privé. Janine Mabunda espère que quand ces nouveaux contrats sur l'ONATRA et la SNCC seront finalisés vers fin janvier 2008, les nouvelles lois sous examen actuellement au Parlement seront déjà promulguées. Au Bas-Congo, la société de culture agricole de Mayombe doit rétrocéder à la population du territoire de Tchela plus de 200 hectares de terre. La SCAM procédera aussi ainsi à l'indemnisation des personnes victimes de destruction méchante de leurs champs. Décision du gouvernement provincial du Bas-Congo à l'issue du conseil de ministres du week-end dernier. Pour sa part, la société SCAM promet de respecter la décision prise par l'exécutif provincial. Plus de détails avec Vicky Odia.
La SCAM devra créer des infrastructures scolaires, sanitaires et des emplois permanents avec priorité d'embauche la main-d'œuvre locale. Dans les autres secteurs de Tchela, le gouvernement provincial demande à la Société des cultures agricoles de Mayoum de sursoir toute extension de culture des VIA aux alentours de la cité de Tchela en attendant sa délimitation. Le gouvernement provincial précise qu'une équipe sera bientôt dépêchée pour procéder à la délimitation des concessions à rétrocéder. La SCAM et les délégués de la population sont attendus à Matadi pour la signature du protocole d'accord à ajouter des données par Moutima, ministre provincial de l'information. Pour M. Ilunga, directeur administratif de la Société des cultures agricoles de Mayoum, la SCAM s'inscrit dans la logique du gouvernement provincial et attend la délégation de la province pour procéder à la rétrocession. Pour la mise en place de l'EVEA, la SCAM affirme avoir perdu plus ou moins 200 000 dollars américains pour la première saison culturelle 2007. Matadi, Vicky Odara.
La société civile du Nord Kivu se dit satisfaite du report de la conférence sur la paix dans les Kivu. Quant à sa participation à ce forum, elle demeure encore hésitante. Elle dit attendre que ces conditions soient examinées par les organisateurs. Elle souhaite entre autres que soit éclairci le statut de groupes armés invités. Et autre exigence qu'elle pose est l'augmentation de sa représentation à cette rencontre. Écoutez Jason Luneno, président de la société civile du Nord Kivu, au téléphone de Georges Kamujova.
Nous estimons que la participation de la société civile devait être importante. 150 délégués par province, le Nord et le Sud Kivu, sur les 600 participants, ça pourrait être une très bonne chose pour nous. Donc nous voulons 150 dans lesquels on va avoir les coordonnateurs provinciaux de la société civile, tous les 11 coordonnateurs provinciaux. Nous voulons avoir aussi les bureaux du secrétariat exécutif national de la société civile, mais aussi nous voulons que l'opposition politique puisse participer à nombre significatif dans cette rencontre, parce que la question qui va être traitée dans cette conférence ne concerne pas seulement les Nord et le Sud Kivu, la question est nationale.
Pour permettre la tenue de cette conférence, le CNDP appelle à un cessez-le-feu. Dans un communiqué cité par l'agence France Presse, le mouvement de Laurent Kunda soutient l'exigence exprimée par le département d'État américain, au terme de laquelle les parties en conflit doivent observer un cessez-le-feu. Ceci afin de permettre le déroulement des travaux dans un environnement sécurisé. Le CNDP dit soutenir la tenue de cette conférence et promet sa participation s'il est invité. D'autre part, la mission de l'ONU en RDC a dénoncé hier au cours de son point de presse hebdomadaire un nouveau recrutement forcé de quelque 200 enfants par les insurgés. Selon Kemal Saiki, porte-parole de la MONUC, les enfants enrôlés sont des élèves de l'école secondaire de Tongo dans les territoires de Rutshuru. Ils auraient été recrutés de force le 17 décembre après que leur matériel scolaire et leur carte d'identité aient été brûlés. Pour sa part, Arthur Zaïd Ngoma juge sans objet la conférence sur la paix dans les deux Kivu. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa, l'ancien vice-président de la République estime que cette conférence ne peut produire les effets escomptés par le peuple congolais. Tant que Laurent Kunda demeurera le maître de lieu, dit-il, cette conférence est convoquée dans des conditions de capitulation. Selon Arthur Zaïd Ngoma, la paix et la sécurité dans ces deux provinces étant un impératif catégorique, le gouvernement congolais doit démissionner. Arthur Zaïd Ngoma dans ses propos recueillis par Jeff Ngoy.
Si cette conférence se tenait et qu'elle échouait, d'aucuns seront fondés à dire, vous les Kivusiens, entendez-vous donc, le pays a besoin de la paix. Cela alors que les Kivusiens ne sont pour rien dans la guerre faite par Kunda à la République démocratique du Congo. La conférence projetée est sans objet. Elle ne peut produire les effets escomptés par le peuple congolais dès lors que tant que Kunda demeure le maître des lieux, elle est convoquée, cette conférence, dans des conditions de capitulation. Pour donner à une telle conférence toute sa pertinence, le gouvernement doit avoir mis fin aux aventures de Kunda en assumant ses responsabilités constitutionnelles devant la nation. La paix et la sécurité dans ces provinces, comme dans d'autres, étant un impératif catégorique, le gouvernement, s'il ne veut pas assumer ses responsabilités constitutionnelles, se doit de démissionner.
L'actualité au Sud Kivu, c'est la réhabilitation du gouverneur de province Célestin Tshibalonza dans ses fonctions. La Cour suprême de justice de Kinshasa a jugé inconstitutionnelle la motion de censure de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. La décision de la Cour suprême a été prise hier à l'issue d'une audience publique à Kinshasa. Didas Namodjimbo nous en parle.
Les faits remontent au 14 novembre dernier lorsque l'organe délibérant a décidé de démettre de ses fonctions le gouverneur Tshibalonza et tout son gouvernement pour mégestion. Celui-ci avait alors déposé son recours en annulation à la Cour d'appel de Bukavu ainsi qu'à la Cour suprême de justice à Kinshasa. En attendant l'issue de l'affaire, 4 audiences publiques ont eu lieu à Bukavu, l'autre étant prévue pour ce jeudi 27 décembre justement. Et dans l'entretemps, la province était dirigée par le vice-gouverneur Watuna Kanza et les ministres provinciaux. Pour les greffiers de la Cour suprême de justice, le gouvernement provincial devrait reprendre le travail au plus tôt. La motion de censure ayant été jugée inconstitutionnelle au cours de l'audience publique de ce mercredi à Kinshasa. Une décision que l'Assemblée provinciale qualifie d'erreur corrigible, selon le vice-président Théophile Abamungu et l'avocat de cet organe, Maître Ngele. Pour eux, l'organe délibérant du Sud Kivu n'était pas représenté à l'audience de ce jour et que le verdict ne devrait pas tomber avant le vendredi 28, date à laquelle les avocats des deux parties étaient invités à la Cour suprême de justice. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
À Mbandaka, dans l'Équateur, un groupe de bandits armés qui a été arrêté la nuit de lundi à mardi dernier par la commission de sécurité du comité provincial de sécurité. Ces bandits sont tous des militaires actifs. Parmi eux, on compte 2 officiers subalternes du régiment commando et un lieutenant de l'auditorat militaire garnison de Mbandaka. Ghislaine Nentobo pour les détails.
Selon la 3e région militaire, tout a commencé par la dénonciation de 2 éléments du régiment commando par un autre élément de cette même unité, arrêté bien avant pour vol des canards. 2 armes dont chacune avait une balle dans la chambre, 9 munitions et 2 chargeurs ont été récupérés dans une cache d'armes qu'ils ont constituée derrière l'institut de Mbandaka, situé non loin du camp capitaine Ngachi où ils habitent. Les 2 militaires avouent être auteurs du vol à main armée opéré au mois de novembre dernier au quartier Kongoassa, où ils avaient importé une somme d'argent après avoir braqué l'arme à l'épouse d'un armateur de convoi motorisé. Ils reconnaissent également avoir volé des satissimons à l'école primaire Bokomboji et tiré sur un toléquiste qu'ils ont rencontré sur leur passage avant de lui ravir sa bicyclette. Ce n'est pas tout. Ces 2 éléments du régiment commando disent opérer et s'approvisionner avec la complicité d'un sous-lieutenant et du commandant second de leur compagnie. Un lieutenant de l'auditorat militaire a été lui pointé comme chef de bande d'un autre groupe de bandits à main armée. Les 3 officiers subalternes de l'armée se trouvent eux aussi sous les verrous à la 3e région militaire où les enquêtes se poursuivent. Mbandaka, Ghislaine Ntupo, Radio Okapi.
Au Katanga, plusieurs trafiquants venus du Kasaï sont bloqués à Sandoa dans le district de Lualaba. Ils accusent l'administrateur du territoire de les empêcher de rentrer chez eux avec les poissons qu'ils ont achetés sur place le mois dernier. Ils affirment aussi que les services de l'État ne leur ont pas délivré à temps les documents nécessaires. Explication de Kazade Chimanga, un des trafiquants, joint au téléphone par Dona Chimboge.
Nous sommes venus ici au début du 11e mois. On a déjà acheté les poissons, on a clôturé déjà. Nous sommes allés au bureau de pêche. On dit que non, il faut attendre dans 2 semaines. Mais on vient écouter maintenant les messages diffusés à la radio que non, il n'y a pas moyen de sortir. Il y a les cas exceptionnels, comme les anciens stocks, on déclare et puis les gens sortent. Or, nous nous sommes sortis à Chika, passé 1000 kilomètres, on vient par vélo. On n'a rien dans la poche.
Contacté à ce sujet, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage dit avoir demandé à l'administrateur du territoire d'apprécier la situation de ces trafiquants. Juvenal Kitungwa a été également joint au téléphone par Dona Chimboge.
Lorsque l'arrêté est sorti, nous avons d'abord commencé par transmettre des messages phoniques. Mais le problème, c'est parce qu'ils étaient habitués avec le mécanisme de déclaration de stock, ils achetaient des papiers et puis ils continuaient à pêcher. Nous avons demandé à l'administrateur du territoire de pouvoir apprécier la situation et maintenant, et nous prenons toutes les dispositions pour que cette fois-ci, que la fermeture soit réellement effective.
Notez que l'administrateur du territoire assistant a affirmé hier soir que l'autorité du district de Lualaba a ordonné de laisser partir ces trafiquants. C'est aussi ici que se termine cette édition du journal. Merci de votre attention.